conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, je continue les interviews post-Covid avec effectivement des architectes. Voilà, alors j'ai souhaité aujourd'hui, dans la continuité des interviews précédentes, Gaëtan Engasser et associés, j'ai souhaité aujourd'hui recevoir l'agence ITAR et Ingrid Talandier. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Alors, vous êtes architecte, une agence d'à peu près 13 personnes, chiffre porte-bonheur. Et du coup, je voudrais vous poser un petit peu la question, comment les activités ont repris? Vous êtes en présentiel, toute l'équipe est là, sur le pont, comment ça se passe?
Oui, dès le 11 mai, tout le monde est revenu pour le plus grand bien de tous, parce que le confinement a quand même été assez compliqué à gérer, et pour les concours qui sont des moments de conception forts, on a besoin d'échanges et le télétravail n'a pas beaucoup aidé à ça. Et puis parce que on aime travailler ensemble, on a des bureaux quand même très agréables. On est donc tous là. On a plutôt des projets qui ont continué à un bon rythme pendant le confinement. Donc on était contents de pas que tout ne s'arrête pas.
Alors, formidable. On va discuter de votre agence, évidemment, sans problème, au contraire. Mais je vais déjà un petit peu vous interroger sur les nouveaux enjeux sur le logement. Est-ce que le confinement vous a aidé à réfléchir différemment? Est-ce que vous avez tiré des enseignements particuliers de cette problématique du confinement? Et surtout, comment fait-on pour faire passer la bonne parole au maître d'ouvrage, hein?
Alors en effet, le confinement a été révélateur des défauts des logements de chacun, trop petits, trop bruyants, sans espace extérieur, sans lieu intermédiaire de socialisation. Et donc nous, on travaille depuis 15 ans sur des problématiques qui sont liées à comment faire vivre une petite communauté au sein d'un immeuble collectif, comment faire en sorte que les gens s'y sentent bien, comment apporter un petit peu du rêve de la maison individuelle dans ces logements urbains.
Parfois étroits.
Et parfois étroits. Et donc, quelque part, ce sont des problématiques qu'on a toujours traitées, mais maintenant, on a des arguments de poids.
On a des urgences.
On a des urgences et on a des arguments de poids vis-à-vis des maîtres d'ouvrage en leur disant il faut un espace extérieur, il faut éclairer les parties communes, que les gens aient envie de se croiser sans être collés les uns aux autres, sans avoir peur de se passer un virus ou de se parler. Donc c'est vraiment important. Ce qu'on a vécu, il faut en tirer parti, il faut le transformer en quelque chose de très positif.
Alors, est-ce que le logement d'après, c'est le fil conducteur de la ville de demain? Est-ce que quelque part, par le logement, on peut, en intensifiant, je dirais, la problématique, se dire que le meilleur logement fait la meilleure ville, hein?
Alors moi, je pars souvent de l'intérieur du logement pour produire un bâtiment, mais je pense que quand un bâtiment s'insère dans un projet urbain de qualité, déjà on a fait un grand pas. C'est la première étape, c'est que le projet urbain doit offrir les meilleures qualités pour les bâtiments qui vont s'insérer dans les parcelles qui ont été conçues. Donc dans toutes les ZAC, on voit bien que c'est essentiel. La qualité de la densité qu'on crée, la qualité des espaces ouverts, des pleins, des vides et de leurs proportions fait qu'un bâtiment peut déjà être, dès le premier coup de crayon, extrêmement qualitatif.
On connaît un petit peu cette problématique et vraiment personnellement aussi je la connais bien et j'ai eu l'occasion de vous faire travailler sur une ZAC et j'espère pouvoir travailler ensemble de nouveau. Est-ce que on se trouve dans une problématique où quelque part le temps de la ZAC est un temps extrêmement long, ou de l'aménagement est un temps extrêmement long, 10 ans. Entre le premier coup de crayon et la construction, il se passe parfois 5-6 ans. Est-ce que du coup, on n'est pas déjà décalé avant même d'avoir commencé?
Alors, je pense que du moment que l'orientation des logements peut être qualitative, du moment que on a une densité qui nous permet quand même d'offrir de l'espace en pleine terre, des espaces partagés ou des espaces de jardin, et que on n'est pas obligé de créer des boîtes à chaussures, dès qu'il y a une certaine forme de flexibilité dans la fiche de l'eau, en quelque sorte, on a toutes les possibilités d'évoluer pendant 10 ans sur des qualités intrinsèques au bâtiment.
Alors, est-ce que la flexibilité passe aussi par le fait d'avoir dans un même bâtiment plusieurs programmations, plusieurs possibilités, que ce soit commerce, locaux d'activité, bureaux, logements, etc. Une espèce d'empilement qu'on voit quand même souvent ces derniers temps dans les problématiques IMGP et autres grands concours et dans les ZAC. Vous y croyez ?
Moi, je crois beaucoup à la mixité en général, c'est-à-dire que la mixité programmatique, elle apporte de la vie à certaines périodes de la journée où les gens ne sont pas là, sont au travail. Elle apporte aussi la mixité sociale et la mixité intergénérationnelle. Est très importante parce que il faut arrêter de faire des ghettos et il faut absolument mélanger toutes les couches sociales. Je pense que la mixité accession et logements sociaux ou accession et logements locatifs est aussi très importante.
Dans le même immeuble ?
Dans le même immeuble ou à deux cages d'escalier séparés, mais en tous les cas, cette mixité sociale, elle est importante, en plus d'une mixité programmatique.
Alors, vous avez évoqué un point extrêmement étonnant. Vous avez dit « quand les gens ne sont pas là ». Alors, aujourd'hui, avec le confinement, on a recommencé en télétravail à retravailler chez soi, donc à être là. Est-ce que du coup, cette pièce en plus, qui sert de bureau, de salle de jeu, etc., est-ce que c'est pas est-ce qu'elle doit être à l'intérieur du logement ou est-ce qu'elle doit être dans l'immeuble en mode partagé ?
Alors, moi, je crois beaucoup à ces espaces partagés parce qu'ils ont un coût tellement ridicule quand on le divise par le nombre de logements ou le nombre de mètres carrés globaux d'une opération. On a fait à Batignolles un petit studio partagé qui donne sur une terrasse kitchen club partagé qu'on peut réserver pour y manger. On a fait je pense que le télétravail dans un espace comme un studio partagé qui peut devenir un bureau partagé est quelque chose de tout à fait faisable et même qui pourrait s'étendre à d'autres activités comme réparer son vélo, un espace où on peut réparer, se retrouver entre voisins pour réparer des choses, bénéficier de l'expertise de l'un ou de l'autre. C'est vraiment un espace en plus, soit un jardin collectif,
mais ça veut dire
soit
que,
un espace fermé en plus, c'est essentiel.
Alors, mais ça veut dire aussi qu'il y a un certain civisme. Comment fait-on pour retrouver du civisme dans ces immeubles ? Parce qu'on sait très bien malheureusement que, alors il ne faut pas généraliser, mais le problème du civisme et de l'apprentissage de la vie en commun, ça ne passe pas que par l'architecture.
Ouais. Il faut que tout ça soit géré soit par la copropriété, soit par une association, c'est évident.
Alors, on parlait aussi de mixité générationnelle, intergénérationnelle. Vous avez des exemples où il vous vient à l'esprit certains exemples de mixité générationnelle entre des personnes âgées, des jeunes couples? Comment fait-on ?
Alors ça, c'est vraiment la maîtrise d'ouvrage qui fait son programme et qui nous incite à concevoir des bâtiments mixtes. En ce moment, on est en train de faire à Ferrières, en Brie, un bâtiment où on a une résidence personnes âgées qui jouxte une résidence étudiante et les espaces sont communs. Et ça, vraiment, c'est un programme qui m'a enthousiasmée. Et quand on a gagné le concours, en plus, c'est un bâtiment en bois, donc on était très contents de travailler ce nouveau matériau pour nous. Et en plus de travailler ce programme mixte, c'était une vraie joie parce qu'on y croit, on pense vraiment que c'est possible. Et si on ne crée pas les lieux pour cette mixité, on n'y arrivera jamais. Et on a vu que les personnes âgées ont vraiment souffert pendant le confinement de leur solitude, les familles qui n'ont pas pu aller les voir, les voisins qui ne connaissaient pas, qui n'ont pas pu les aider comme ils auraient aimé. Donc Je pense qu'on l'architecture peut créer du lien social.
Je vous vois enthousiaste et j'en suis ravie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une architecture périurbaine en Île-de-France qui est différente de celle des régions à Nantes, à Rennes ou ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment deux types d'urbanisme et deux types d'architecture selon aussi, l'économie des projets?
Alors, on a en Île-de-France une vraie problématique de densité, de création de logements quand même extrêmement importante. Et je pense que cette densité très forte, et en Île-de-France, elle est un peu moins en province, même si on construit quand même dans des zones tendues, des métropoles à Nantes, à Lyon. La création d'espaces très généreux en cœur d'îlot est beaucoup plus facile. En province, les panelages, la possibilité d'avoir des typologies de type maison superposées versus des grandes émergences est plus facile également. Certains aménageurs en Île-de-France ont vraiment donné une marque forte que j'appelle la densité raisonnée. C'est qu'on essaye de ne pas avoir un élément de bâti totalement uniforme et qu'on essaye de créer un épanelage qui permet d'ouvrir d'ouvrir le ciel, d'ouvrir l'espace avec plus de sol paysager. Et donc ça, c'est quand même très bénéfique.
Alors, je vois que votre enthousiasme ne faiblit pas. On a effectivement cette problématique dans les ZAC et dans les zones d'aménagement en Île-de-France, du foncier. Est-ce que le foncier, ce n'est pas le point d'accroche de tout ça?
Le foncier, c'est le coût du foncier fait que nous avons des logements trop petits et des bâtiments pas assez pérennes. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on maîtrise les coûts du foncier, que l'État s'immisce... Pour éviter la surenchère, parce qu'il n'y a que cette baisse du coût du foncier qui va nous permettre de construire pérenne et de construire plus grand. Et je pense qu'on est tous collectivement responsables de ce qu'on construit, du patrimoine de demain. Et il faut qu'on soit fiers de ce qu'on va laisser pour les siècles à venir.
Ben justement, on va parler des siècles à venir, en tout cas des années à venir, avec la deuxième interview qui sera sur votre agence, sur l'ADN de l'agence, et puis un peu sur les spécificités. Ben merci, chers auditeurs, et à la prochaine fois, bien évidemment. Merci, Ingrid.
Merci, Myriam.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.